Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ça c'est de la vue!
Ah, c'est magique cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage, et aujourd'hui on va aborder un thème qu'on n'a encore jamais abordé et un très joli thème dont je pense qu'en ce moment tout le monde a besoin. Et je suis très content de reprendre les enregistrements de Je t'emmène en voyage, parce qu'il y avait une petite pause sur ce magnifique thème qui est l'amour. Comment on va trouver, chercher à la rencontre, on va dire, de l'amour quand on part en voyage? Comment c'est possible? Et aujourd'hui il y a Perrine qui va nous en parler. Perrine, comment ça va?
Ça va très bien, merci Alex.
Écoute, je suis vraiment très content qu'on parle de ce sujet-là, qui est un sujet qui est finalement, tu sais, il y a toujours un peu cette légende, tu sais, genre, oui, je suis parti à l'autre bout du monde, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie sur une île paradisiaque et tout, alors qu'au final, ça n'arrive quasiment jamais, on va pas se le cacher. Et en fait, quand tu m'avais envoyé ce message pour me raconter ta jolie histoire, je trouvais ça assez beau et assez inspirant pour que ça donne envie à d'autres en fait d'aller le chercher. Tu sais, c'est toujours pareil, le but c'est pas forcément d'atteindre son objectif, c'est de s'amuser à essayer de l'atteindre en fait. Et avant de parler justement de cette période là, cette période justement où t'as permis de rencontrer l'homme de ta vie, j'aimerais qu'on retourne à l'origine. Qu'est-ce qui t'a fait voyager, le tout début? Comment ça t'est venu, si je dis pas de bêtises? En plus c'est d'un moment de ta vie qui était pas forcément agréable. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai toujours eu envie de voyage. J'ai toujours été attirée par les langues étrangères. J'ai fait mes études à l'étranger, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai toujours travaillé dans des contextes internationaux, multiculturels, etc. Ouais, ouais. Mais ça remplaçait pas le voyage. Ça remplaçait pas l'expérience de vivre un peu hors du temps. Et ce qui s'est produit en fait en 2014, c'est que du jour au lendemain, je me suis retrouvée complètement vidée de mon énergie, donc épuisée. C'était un syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out. Et en fait, le voyage, il a commencé là. Il a commencé finalement au fond de mon lit, dormir toute la journée, pas dormir la nuit, et à en fait commencer à me poser finalement enfin ces questions qui étaient: qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis en train de vivre la vie qui me correspond? Et est-ce que j'ai pas en fait abandonné mes rêves en chemin? Donc j'approche de la trentaine, c'est je pense un très bon concours de circonstances. Et donc évidemment la solution pour moi pour regagner cette énergie, ça n'a pas été de chercher un autre travail, de changer les conditions, mais plutôt de prendre du temps pour moi et reconquérir ce temps et cet espace pour une reconstruction. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est vraiment ça, c'est se consumer de l'intérieur. Une fois que les murs sont à plat, l'avantage c'est qu'on ne peut que reconstruire, on peut choisir chaque pierre qu'on veut remettre dans cet édifice une à une, et en faisant vraiment les choix par rapport à soi et pas par rapport à des injonctions extérieures.
Et justement, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là quand tu dis que tu t'es vidé de ton énergie, tu t'es cramé de l'intérieur? C'était quoi le boulot que tu avais et c'était quoi la cadence de vie?
Oui, en fait, j'étais dans un environnement un peu toxique au travail, mais même sans l'environnement toxique au travail, qui était certainement la bonne excuse pour moi pour pas me regarder en face, c'était ce besoin de faire toujours le maximum, donc travailler le plus possible, toujours vouloir en faire plus, quoi, tout simplement, certainement une quête de confiance aussi, et puis occuper tous les soirs, occuper tous les week-ends, des activités, des potes. En fait, j'avais pas assez d'heures dans une journée ni dans une semaine, donc j'explorais plein de choses, je faisais de la danse, je faisais du théâtre, en fait, j'essayais de remplir un vide.
Ouais, c'est intéressant, donc, en fait, c'est-à-dire
donc,
que...
du jour au lendemain, ça coupe, quoi.
Ouais, pardon, en fait, ton burn-out, en fait, ce qui est... Si on l'associe souvent... comme tu le dis, on s'est vidé, on s'est cramé de l'intérieur professionnellement. Ça vient souvent, cette tendance de « ouais, j'ai tout donné au boulot, etc. » Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis que finalement, oui, tu avais une vie intense au bureau qui était ce qu'elle était. En plus, il y avait une ambiance toxique. Mais en plus, tu te donnais pas le temps de recharger les batteries le week-end, de prendre du temps pour toi, d'être vis-à-vis de toi-même, en fait, tu vois. Et finalement, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant de comprendre, c'est qu'un burn-out, c'est pas que juste travailler dur, c'est aussi, en fait, ne jamais enfin c'est consommé, ça jauge d'énergie par les deux bouts. C'est vraiment à aucun moment tu te poses, à aucun moment tu te poses des questions, à aucun moment tu t'accordes du temps et tu tires sur la corde en permanence. C'est un peu ça.
Absolument. Et tu vois, en fait, je pense que ce besoin de remplir et cette bon, après, j'ai toujours été quelqu'un d'énergique, mais j'ai toujours, en fait, plus c'était toxique au travail, plus je devais être irréprochable, donc plus je donnais. Et en même temps, comme je ne voulais pas laisser gagner le système, j'avais cet esprit de réaction qui était on m'enlèverait pas ma vie, quoi. Donc, je compensais énormément par des activités, par plein de choses pour faire en sorte que ma vie ne se résume pas au travail, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que j'étais perdante trois fois, quoi. Sur tous les tableaux, en fait.
Tu te mettais la double pénalité.
Le temps perso, ouais, complètement. Le temps perso, le temps avec moi-même et le temps au travail, en fait, j'avais tout faux, quoi.
Mais alors, comment on passe de je suis épuisé, j'ai plus d'énergie, j'ai certainement le moral un peu dans les chaussettes parce que quand on est fatigué, moi je sais pas, quand j'ai pas dormi, j'ai l'impression que je trouve aucune solution, tout est compliqué, à je pars faire une des choses les plus folles de toute ma vie. Alors que même d'habitude quand on a la forme, déjà c'est pas facile de sauter le pas. Comment ça se passe finalement quand t'es au fond de ce lit, que bah t'es crevé, que tu te reconstruis certes, mais c'est surtout que t'es dans le cosmos, quoi.
Ouais, mais en fait c'est très intéressant parce que l'idée je l'avais toujours eue, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler à 22 ans et 2 jours et j'ai, en fait mon job m'attendait, c'était mon deuxième stage, un an avant la fin de mes études. Et je me rappelle déjà très bien être mon dernier semestre d'études en Allemagne et entendre tous mes camarades, enfin pas tous, mais évidemment c'est ce que je me disais, imaginer de faire une année sabbatique, aller jusqu'en Australie ou aller étudier dans un autre pays pour ajouter une corde à leur arc, ouais. Ce genre de choses. Et moi, je me rappelle avoir appelé ma chef en disant « Est-ce que je pourrais pas commencer en janvier plutôt que en juillet ?» Donc j'avais quand même ça qui avait toujours été là, et puis je me retrouve 8 ans, 9 ans plus tard dans la même situation en fait, où j'ai vraiment ce sentiment en Allemagne, je me voyais, si tu veux, rentrer à la maison, j'avais déjà le copain, j'avais déjà le boulot, et en fait la fête est finie. Donc il y avait déjà au fond de moi ce besoin, cette envie de me dire je peux recommencer ma vie à tout instant, à tout moment, n'importe où, je m'adapterai. Parce que je vivais avec juste deux valises dans une chambre de 9 mètres carrés et tout était possible. Et en fait, je pense que c'est cet espace où tout est possible, où les contraintes sont les miennes, que je cherchais à retrouver. Donc, pour répondre à ta question, déjà en 2013, j'avais eu envie de partir, j'avais essayé de négocier. Ouais. Et c'est assez intéressant comme la vie nous envoie des sortes d'épreuves qu'on arrive à capter ou pas. Ouais. Et dans ce cas-là, le jour où je dis à ma chef que je veux négocier et que je veux partir parce que c'est invivable, mais le soir même, je vais à un festival de salsa et je rencontre quelqu'un. Et donc, du coup, je me dis, bah non, j'ai 28 ans, gna gna gna. Enfin, bon, voilà, quoi, tout ce que la société m'a mis dans le crâne, qu'il fallait être raisonnable, que si je voulais avoir des enfants, c'était maintenant, ce genre de truc, quoi. Et donc, l'avantage avec le burn-out, tu vois, tu dis, je devais être avec le moral dans les chaussettes. J'avais au début une grande colère, mais au fond de moi, j'ai senti que c'était un cadeau, en fait. Je l'ai tout de suite senti. Je ne sais pas comment en sortir, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour revenir à où j'étais, mais merci mon corps de dire à mon cerveau, on arrête tout, tu t'y prends comme un pied, maintenant je reprends le contrôle.
Et tu sais, c'est bête, alors moi, je crois que j'ai jamais posé cette question. Techniquement, quand on est en burn-out, est-ce qu'on est pris en charge? Je sais pas, est-ce qu'on touche les indemnités chômage? Est-ce qu'on retourne chez les parents parce que finalement on est au lit et qu'on est bon à rien? C'est quoi un peu les circonstances de où est-ce qu'on est à l'hôpital? C'est quoi le quotidien? Tu vois, t'es où? Tu fais quoi financièrement? Est-ce que c'est la dégringolade? Enfin, tu sais, je m'en rends pas compte.
Ouais. Bah, on a beaucoup de chance en France. Donc, en fait, même si le burn-out n'est pas considéré comme une maladie professionnelle, je pense, tu es en arrêt maladie.
D'accord.
Je conseillerais aux gens qui se retrouvent. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui ai compris que j'avais un burn-out, c'est pas mon médecin. Il y a très peu d'informations ou en tout cas de connaissances de ça. Et là où j'ai trouvé le salut, finalement, ça a été la psychologue de la médecine du travail. Donc, c'est une collègue qui m'a conseillé d'aller la rencontrer parce qu'en fait, j'ai été arrêtée en pensant que c'était juste une semaine parce que j'étais fatiguée. Et okay. en fait, à partir du moment où j'ai accepté de m'arrêter pendant une semaine, c'était de pire en pire. Donc quand tout je dis de pire en pire, c'est des courbatures. Ouais. Ouais, tu dors pas. En fait, j'avais les cervicales tellement en tension que j'avais mal aux yeux au point de ne pas pouvoir sur quelqu'un de regard. En fait, je fermais les yeux, je tournais la tête et je rouvrais les yeux. Ouais. Et ça se manifeste différemment pour chaque personne, mais j'essaie de revenir au travail. Et en fait, je perdais la mémoire. Je pensais que il y avait un gros truc à faire. J'avais l'impression que c'était énorme. Et donc, du coup, je repoussais. Et au dernier moment, j'allais m'y mettre. Et je me rendais compte que je l'avais déjà fait 3 jours avant. Enfin, des trucs absurdes. T'as peur de t'endormir en voiture. Enfin, ça se manifeste différemment pour chacun. Il y a des gens qui ont vraiment une chute physique. J'avais aussi des vertiges. Mais voilà, c'est très différent suivant les gens. Malgré tout, tu es en arrêt de travail. Je suis finalement allée voir un psychiatre, parce qu'on m'avait orientée vers un psychanalyste, et honnêtement, ça ne le faisait pas.
Ouais.
Le psychiatre m'a dit des mots très sages, qui étaient « vous n'avez pas de maladie mentale, vous êtes juste mal tombé. Vous devez apprendre à dire « moi je veux » et à dire « non ». Et voilà. Et quand on perd un combat, faut savoir lâcher et recommencer ailleurs, quoi. Et
super.
Évidemment, il me prescrivait des antidépresseurs parce que pour la sécurité sociale, s'il n'y a pas d'antidépresseurs, il n'y a pas de maladie.
Ah, tu les prenais pas?
Parce qu'en fait, un burn-out peut s'accompagner d'une dépression ou pas, en fait.
D'accord.
Mais honnêtement, c'est juste une grosse fatigue du corps. Et en fait, moi, comment j'ai ressenti, c'était un divorce entre le corps et l'esprit, en fait. Je ne considérais pas mon corps comme le véhicule ou comme mon allié ou comme mon meilleur ami dans la vie. Je pensais que c'était à cœur vaillant, rien d'impossible.
Ouais, c'est ton esclave.
Et c'est le...
Il doit faire ce que tu lui ordonnes.
C'est le très commun. Ouais. Et c'est vraiment très commun pour toutes les personnes en burn-out, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Je peux toujours me débrouiller, je force et puis ça passe. Et on s'est toujours prouvé que ça marchait, donc on continue et on voit pas le mur.
Mais du coup, tu réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui a fait que t'es au fond du lit et que tu dis bim bam boum, allez on y va quoi?
Ouais. Donc en fait, pour répondre à ta question aussi de est-ce qu'on revient chez ses parents,
Ah, il y a même celle-là aussi. Hey,
voilà,
tu
ça,
réponds
en fait...
aucune question, t'es politicienne ou quoi?
Exactement. Donc, j'ai senti que je m'éloignais. Mais je pense que c'est important d'expliquer la différence avec la dépression ou tout simplement bien les sûr. Maladies mentales ou ce genre de choses. En fait, j'étais en location et je l'ai senti en fait quand j'ai eu le burn-out. J'ai eu envie de lâcher, de donner mon préavis en me disant ça va m'aider à me remettre en marche. Et donc je l'ai fait et mes parents m'ont très gentiment dit quand l'oiseau tombe du nid, il revient à la maison.
Ouais, je m'en doutais. Je suis sûr que c'était ça.
Voilà.
Tu sais,
donc,
c'est vraiment le moment que tu vas chez tes parents.
Le fait de vider.
Ouais.
Ouais, mais surtout aussi de vider chez soi. Je pense que pour moi, qui était dans ce trop-plein de faire, il y avait aussi ce trop-plein de consommation. Alors, j'étais pas une extrémiste de la consommation, mais tu sais, t'as une mauvaise journée au boulot, tu vas t'acheter une petite bricole de déco, ou pour moi, c'est les ustensiles de cuisine, que sais-je.
Ouais, ouais.
Et en fait, de vider chez moi, ça a été, ou même les paires de chaussures, quoi. Donc il y a eu un peu tout ce mouvement de se défaire des relations aussi qui étaient trop pour moi. C'est-à-dire que quand tu es dans le burn-out, tu ne peux pas non plus être exposé trop aux autres. Qu'ils te renvoient à l'insu de leur plein gré, c'est vraiment toi en fait, qui vois dans ta relation avec eux que tu n'es plus la même personne, que tu n'es plus capable de donner ce que tu donnais, que tu n'as pas de discussion intéressante. Bref, en clair, tu ne sers à rien. Quoi.
Okay.
Donc voilà, tu décharges en fait tout ce bagage et tu t'autorises à ne te concentrer que sur toi. Et toi, tu peux de toute façon pas faire grand-chose. Je me faisais des listes de choses à faire, mais je n'avançais sur rien. Et donc voilà, mise au pied du mur avec ce préavis, il fallait que je vide ma maison, que je me débarrasse de mes affaires et que je me rende compte qu'en fait, rien de tout ça ne m'intéressait en fait. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'être seul avec un petit sac à dos et de prendre chaque jour comme un cadeau, quoi.
Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? T'es au fond du lit, tu déménages, tu vires tout, tu fais le tri,
ouais.
Tu prends ton corps comme tu peux.
Ouais.
C'est quoi le shift? C'est genre t'es chez tes parents, il y a maman qui ramène la soupe et qu'à un moment tu dis je crois que j'ai besoin de temps pour moi, je vais partir voyager. Là tes parents ils disent mais t'arrives à peine à marcher.
Ouais.
C'est comment ça s'est passé?
Je sais pas si j'ai vraiment dit à mes parents, mais en tout cas, le deal entre nous,
je vais chercher du pain.
C'est que je faisais le repas du soir. Voilà. Donc, eux, ils travaillaient. Et je préparais le repas. Et puis, bougeais à différentes choses. Mais je savais au fond de moi que c'était la solution. Je pense pas leur avoir dit qu'ils étaient très inquiets. Et en fait, petit à petit, le fait de reprendre un peu des responsabilités, j'ai aussi acheté un appareil photo, un réflexe, en me disant, bah, je vais au moins me bouger et sortir en nature et prendre des photos. Et ça, ça a été vraiment génial. Promener le chien de mes parents aussi.
Génial. Ouais, chose
donc
simple.
Petit à petit, tu vois, en fait, revenir à ces plaisirs de la vie. Et puis, je ne sais pas comment aussi, je tombais sur des TED Talks qui me parlaient énormément sur, je sais pas, cool. Pierre Rabhi avec Être ou avoir, le pouvoir de la gratitude. C'est un TED Talk par Florence Servan-Schreiber. En fait, il y a plein de gens qui sont venus à moi à ce moment-là où j'étais vraiment réceptive.
Ouais.
Je cherchais aussi comment regagner mon énergie le plus vite possible. Donc, je me suis mise à faire des graines germes. Mais en fait, j'explorais beaucoup le côté alimentation aussi.
Bien sûr.
Donc, j'ai recommencé par les bases, en fait. Le sommeil, la nourriture, être en nature, content de peu n'a rien à craindre, me satisfaire des petites choses, des choses accessibles et gratuites. Recommencer à zéro, en fait. Ouais. Avec l'émerveillement d'un enfant, j'imagine, tu vois. Donc, c'est un peu un gros reboot, quoi.
Mais du coup, tu veux toujours pas me dire comment t'es passé au fait de voyager, hein, parce que là, on est toujours dans la chambre de tes parents. Hein.
Je ouais, sais que et bien en fait, concours de
je sais que c'est long un burn-out, je le sais. Mais
ouais.
Justement, qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à passer au prochain chapitre? Comment ça s'est passé?
Tout à fait. Et en fait, je trouve ça intéressant qu'on y passe du temps parce que en fait, c'est vraiment le voyage immobile avant le vrai voyage et il était indispensable. Je vois passer une annonce. Alors attends, déjà je pense que je prends mon courage à deux mains et j'appelle la DRH. Et le jour où j'appelle la DRH, le soir, je vois une offre pour une formation Erasmus+ pour être animateur de chantier solidaire. Tu sais, ce bénévolat
cool.
international.
Ouais.
Et je postule.
Okay.
Et le lendemain matin, la DRH me rappelle, c'est accepté, et je reçois un mail, la formation en Sicile est acceptée. Donc voilà, une porte s'ouvre, une porte se ferme. Il suffisait juste d'oser des deux côtés. Et puis voilà, 3 semaines après, c'est le moment du départ. Alors évidemment, je ne suis pas en grande forme, mais là, on est en mars. Donc ça fait quand même 9 mois, c'est un accouchement. Hein.
Ah ouais.
Et ouais. Et je suis prête. Ouais.
Bon, maintenant, avec le Covid, on sait que ça passe vite 9 mois, en fait, hein, quand tu es à la maison. Et tu
exact.
Fous rien.
Tu vois, en fait, c'était un confinement. Mon burn-out était un confinement complètement.
Ouais, tu t'étais entraîné.
Ouais.
Et du coup, ça c'est fort, c'est au moment où tu t'es dit, ok, là c'est le moment, faut que je claque madame, salut la DRH, j'ai envie de claquer madame, comment on fait, ok, on en parle, je vous rappelle demain,
ouais.
Tiens, il y a une offre, et bim bam, et là t'es parti sur le voyage. Et à ce moment-là, quand t'es sur place, que t'as tous les feux qui sont ouverts pour dire, de toute façon Perrine, c'est par là que ça se passe, on sait pas où ça va finir, mais en tout cas c'est par là qu'il faut commencer. C'est quoi les premières choses, en fait, qui t'ont... Tu sais, les voyants qui s'étaient éteints tout au long de ton burn-out, c'est quoi les premiers voyants qui sont rallumés?
Je dirais la présence. En fait, j'étais beaucoup plus présente à la sortie que j'étais au début. Et ensuite, je te parle de la Sicile, c'était quelque chose d'encadré. Et une fois la Sicile, enfin le stage terminé, je me retrouve seule. Et en fait, c'est ce sentiment d'infinie possibilité que je retrouve et que j'avais touché du doigt donc, quand j'étais étudiante en Allemagne, de si ça se passe bien, génial. Si ça se passe pas bien, je continue mon chemin et rien ne peut m'arriver. En fait, je suis totalement capable d'inverser la tendance. Et donc, je choisis la confiance plutôt que la peur parce que j'ai rien à perdre, en fait.
Tu m'étonnes.
Donc, la possibilité, je dirais liberté, possibilité... Ouais, présence, vraiment
en fait,
présence.
T'as arrêté de vivre dans le futur et d'être dans tes pensées permanentes pour te regarder tes pieds et te dire, tu regardes autour de toi, tu dis ok, je suis là en fait, je suis là, où je vais, c'est quoi le prochain pas, c'est quoi la prochaine aventure. Et justement, ça a été quoi cette prochaine aventure? T'étais reparti un peu dans le game, t'as rechargé les batteries, t'as des voyants qui se sont rallumés, t'as commencé à te dire, waouh, ok, je commence à être là où je dois être, je suis en train de m'écouter, déjà ça fait du bien, ça faisait un petit bout de temps. Ça a été quoi les aventures qu'on suivit?
Ben en fait, au début, je suis restée en Europe parce que j'avais une cousine qui se mariait au mois de juillet. Donc, c'était très bien. C'était une sorte de tour de chauffe. Et la première peur, je pense, qu'on a quand on voyage, homme ou femme d'ailleurs, c'est je suis seule, je vais m'ennuyer. Ouais. Je voulais pas être dans le tourisme de consommation de toute façon. Et c'est rigolo parce que, en fait, premier jour toute seule, je suis à Agrigente, qui est une ville donc en Sicile avec la vallée des temples. Ouais. Et je me balade toute seule et je passe vraiment une très belle journée. C'est magnifique, le printemps est là. Et il y a un homme qui se rapproche et qui me dit « Tu veux que je prenne une photo de toi devant le temple ?» Je suis là, bof, quoi. Mais je me dis « Pourquoi pas ?» Et okay. On papote et on commence à marcher. Et il était lui aussi en voyage tout seul. Et il avait voyagé, il avait fait un tour du monde, etc. Et donc, il était habitué à rencontrer des voyageurs et à faire un bout de chemin ensemble. Et d'ailleurs, c'est moi qui lui ai dit « Si tu veux, on n'a qu'à aller dîner ensemble ce soir. Ouais. » Et donc... très naturellement, en fait, le lendemain, il toujours me proposait gentiment de l'accompagner parce qu'il sentait certainement que j'étais encore dans cet espace de est-ce que c'est vraiment safe ou pas. Ouais, et donc, on a passé 2-3 jours ensemble et c'était vraiment super sympa. Et donc, c'est vraiment, tu sais, cette idée que quand tu poses une question à l'univers, l'univers te répond de comment ça va se passer, je suis toute seule, je suis une femme. Ouais. Et non, en fait, chaque pas a été une confirmation de ce chemin que je voulais emprunter, dont je savais qu'il existait, mais que je ne m'autorisais pas forcément à suivre. Donc ça a été progressif, étape par étape, et j'ai vraiment trouvé mon style de voyage à l'été, où je suis allée à Copenhague pour aider à restaurer un voilier scandinave, parce que j'avais au fond de ma tête l'envie et la volonté d'apprendre à naviguer. Ouais.
Attends, t'as trouvé ça sur quoi? Sur LPX? C'était un LPX?
LPX, ouais.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site en fait où des gens proposent des missions de bénévolat où contre 4, 5, 6 heures de travail par jour, tu es nourri, logé. Et toi, tu t'es dit, autant pas faire un truc lambda, je vais aller restaurer un voilier au Danemark. Oh là là.
Ouais.
Alors ça s'est passé comment? Ouais.
Coup de foudre pour le voilier, pour son histoire, pour le milieu, pour les jeunes qui le créent. En fait, je suis tombée sur des jeunes qui avaient beau être pour la majorité étudiants en thèse et scientifiques, qui avaient envie de créer notre société, qui avaient envie de faire du cargo à la voile. Donc de revenir à des méthodes ancestrales et plus respectueuses des hommes et des milieux, de transporter donc de la nourriture bio, disons de l'huile d'olive du Portugal jusqu'en Norvège, du thon ou je ne sais pas, du saumon séché de Norvège. Ben voilà, faire cette bascule, restaurer ce bateau. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait de restaurer le bateau, je me restaurais moi aussi. La marketeuse en moi n'étant pas loin, j'ai fait les relations publiques, le blog, les réseaux sociaux, etc. Okay. Je les ai aidés sur beaucoup d'aspects et ils auraient voulu que je reste. Et c'était un peu pas mon épreuve finale, mais en tout cas, c'était le test de voir si
t'étais prête,
de trouver à nouveau un endroit qui me convenait, j'allais me poser et lâcher mes rêves, ou si j'allais oser dire non même à quelque chose de séduisant et à continuer mon chemin. Et donc, même si je suis encore en contact avec eux aujourd'hui, j'ai osé continuer mon chemin, qui m'a amené donc en Nouvelle-Zélande, car j'avais déjà pris mon permis vacances-travail, puisque j'arrivais à mes 31 ans et on peut demander jusqu'à 30. C'était prévu. Septembre 2016, départ pour la Nouvelle-Zélande.
Bam ! Là, c'est un autre game, c'est une autre aventure. C'est très très loin, c'est plus l'Europe. Il y a, on va dire, des repères culturels, clairement. Hein, avec,
bien sûr.
Parce que c'est quand même anglo-saxon et c'est très british dans l'idée. Comment ça se passe? C'était quoi le trip? C'était, tu te poses dans une ville, tu travailles, ou t'achètes une bagnole, tu fais du fruit picking? Ça a été quoi le plan?
Complètement l'opposé. En fait, ce qui m'a attiré dans le permis vacances-travail, c'était vacances.
C'était pas le mot
mais
travail.
Mais dans le travail, la sécurité de me dire si jamais j'ai besoin. Parce qu'en fait, c'est un sujet, je pense, que tu abordes souvent avec les personnes que tu interroges. On a toujours cette trouille de se dire je vis sans revenu et j'ai pas envie de tout cramer tout de suite parce que le but, c'est d'en profiter un maximum.
Clairement.
Et l'avantage du permis vacances-travail, c'est qu'effectivement, tu peux t'arrêter le jour où tu as besoin de travailler et après tu repars, quoi. Tu recharges un peu les jetons et puis tu continues à jouer, quoi. Donc au début, j'ai travaillé pendant 6 semaines et ensuite j'ai fait que du LPEX, donc LPEX comme je disais, donc LPEX pour Help Exchange, donc on échange son aide contre le gîte et le couvert. Et j'ai aidé un apiculteur, j'ai peint des maisons, j'ai tondu des moutons, j'ai trait des vaches, j'ai gardé des enfants, j'ai rejoint un capitaine avec des jeunes. J'ai fait plein de choses, en fait. Je me suis occupée d'un Airbnb. Et en fait, j'ai vraiment, comme j'avais toujours pas un énorme, d'énormes ressources énergétiques.
Ah, encore ?
Vraiment vécu ça comme j'ai envie d'explorer la Nouvelle-Zélande 6 semaines ou un mois à la fois. Ouais. D'un endroit à l'autre. Si ça me plaît, je reste. Si ça me plaît pas, je m'en vais. S'il y a un truc qui m'appelle, j'y vais.
Ouais.
Et sinon, bah, je voilà. Et c'était très intéressant de voir comme je me suis sentie accueillie en Nouvelle-Zélande dès l'arrivée et qu'en fait, tous mes pas ont été d'une façon fluide, guidée. Quand j'avais l'impression que j'arrivais au bout d'une aventure et que j'avais une idée, bah, dans les 2 heures qui suivaient, ça se concrétisait. Voilà.
Ah ouais,
donc, vraiment une infinie facilité.
L'univers, il t'a dit, hey, t'es un peu en galère, on voit que tu t'as une petite mine, viens, je te prends par la main. Viens, on t'amène. Et tu sais, pour ceux dont c'est aussi, je pense, et c'est de plus en plus un rêve d'aller dans ces pays aussi lointains qui font rêver, qui sont grandioses et qui permettent, comme tu dis, de quand t'as pas une thune, de quand même envisager ce genre de voyage parce que tu peux à peu près faire rentrer de l'argent que tu vas dépenser ou. Aussi faire un équilibre entre je travaille ou alors je fais des petits bénévolats. Concrètement, comment ça se passe? C'est aussi, surtout en Nouvelle-Zélande, si tu vas sur le site Helpix ou Workaway et tu fais une demande et on te répond assez vite, est-ce que déjà ça c'est une chose? Et après, dans l'émission, est-ce que tu sens qu'à chaque fois c'est quand même quelque chose qui te nourrit ou est-ce qu'il y a quand même, je sais pas, du déchet, on va dire, pour appeler ça comme ça?
Oui. Excellente question. Alors,
je pose souvent des excellentes questions. Attention, Périne.
J'ai envie de te répondre même, tu vois, sur la partie financière.
Ouais.
Bon, j'avais des miles que j'ai liquidés, donc je ne peux pas compter le vol. Mais sur place, j'avais retiré 1400 euros avant de partir, et c'est ce que j'ai dépensé. Et j'ai travaillé 6 semaines
en
et j'ai mis à peu près 1000 dollars, qui étaient, disons, 600 euros de côté. Donc, 2000 euros pour 12 mois.
Ah ouais.
C'est sûr que par rapport à juste aller en Nouvelle-Zélande pendant 3 semaines, quand on travaille, franchement, c'est royal et c'est totalement possible. Après, je dois préciser quand même que je ne bois pas de café ni d'alcool. Donc, prévoyez un budget pour ça.
Ah, même le café? Ah, le café, c'est cher.
Mais donc, bah, j'en sais rien. Non, mais c'est juste que si tu veux,
ça va vite.
Il n'y a pas de budget pour moi en boisson, quoi.
Ouais, voilà. Tu m'étonnes. Toi, c'est
pas de drogue.
Haute source, direct.
Exactement. Et donc, sur le déchet, c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai bien eu quelques bénévolats où j'étais pas ultra convaincu, alors pas dans un mauvais sens, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait tout dépend de ton profil. C'est-à-dire que si, et j'en vois beaucoup et surtout pour les jeunes qui ont peu d'expérience,
ou que c'est quoi le truc?
La façon que tu as de te présenter, si tu dis je suis jeune, dynamique, je suis très intéressé à vous aider avec n'importe quoi, ce qui est le cas, hein. Tu dis je suis appliqué très ci, très ça, bah, les gens ils voient en toi juste un travailleur.
Okay.
Ce que moi j'ai changé dans mon profil après être tombée dans une famille où les règles ont changé en cours de route, où on n'était pas forcément nourri pleinement, voilà, où ils comptaient les heures mais de manière désavantageuse, j'ai en fait commencé à expliquer que moi ce que je recherchais c'était le contact humain. Donc déjà expliquer plus qui j'étais et quel était mon chemin. Et le fait que j'étais sur Helpex pour rencontrer des gens pour devenir un membre de leur famille et participer et vivre leur vie avec eux. Et à partir du moment où j'ai changé ça, mais certainement aussi que j'étais dans une meilleure énergie, hein, y a pas que ça.
Bien sûr.
Ça a été magique, c'est-à-dire que vraiment toutes les personnes avec qui je suis restée, je suis revenue en stop depuis le sud de l'île du Sud jusqu'à Auckland avant de partir, et tous les soirs je m'arrêtais chez des gens chez qui j'avais vécu, et c'était comme revenir à la maison, c'était comme visiter mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, enfin c'était extra, vraiment extra. Et il y a effectivement 5 ou 6 000 hôtes sur Helpex, donc les réponses elles tombent facilement. Il y a peut-être des périodes après, je sais qu'autour de Queenstown, et c'était peut-être au mois de février, donc c'est le mois, enfin l'été autour de Queenstown, c'est peut-être beaucoup trop demandé, mais sinon partout ailleurs, il y a des gens.
Ouais. Et à partir de la Nouvelle-Zélande, est-ce que là, t'as commencé à te ressentir toi, ou en tout cas mieux que même avant le burn-out, ou est-ce que t'étais encore en mode, je me sens bien dans ma tête, mais mon corps, il est encore carbo, quoi.
Non, j'étais vraiment pleinement là, je
Ah.
me baignais même s'il faisait 13 degrés, j'étais
Yes.
vraiment dans une envie de tout apprécier. Je te parlais d'apiculture, je me rappelle après 6 semaines à Auckland, arriver à la nuit en plus avec l'apiculteur, donc un homme seul, donc encore une fois petite prise de risque
Ouais.
pour la Perrine d'avant. Et entendre les vagues et voir les étoiles et le premier jour ouvrir les ruches, sentir l'odeur de la propolis, entendre le comment ça s'appelle le bourdonnement des abeilles, observer, apprendre, partager, aller au marché avec l'apiculteur, rencontrer les gens chez qui on avait des ruches, rencontrer les gens au marché. J'avais la personne qui organisait le marché des producteurs était un Anglais qui avait vécu en France et au Maghreb, et il m'a porté mon croissant à 7 h du matin à l'ouverture de la boulangerie. Enfin, ça pendant six
Génial.
semaines, tu vois totalement dedans, quoi. Et c'était juste, ouais, vraiment, je me sentis accueilli tout le temps, quoi. C'était,
Et alors du coup
ouais, plaisir
après
après plaisir.
ouais c'est en fait c'était t'as vraiment rechargé les batteries, tu t'es lancé avec la Sicile, ça t'a mis un pied à l'étrier, on va dire le bénévolat à Copenhague ou en tout cas au Danemark, ça t'a vraiment boosté pour continuer, t'as rechargé les batteries en Nouvelle-Zélande. Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
Et après, j'arrive au sud de l'île du Sud et je rejoins un capitaine que j'avais déjà contacté depuis Copenhague. Mais comme il était loin d'Auckland, je m'étais dit, bon ben, enfin, je leur avais dit, ah, merci de me proposer quelque chose en octobre, mais je pense que je vais d'abord prendre le temps enfin, je vais commencer
Profitez,
par
ouais.
là où je suis et quand j'arrive au sud, oui, no worries, tu nous fais signe quand tu arrives. Et donc là, je rejoins un capitaine qui emmène des jeunes. Sur une île, je vais pas dire déserte parce qu'il y a 400 habitants, mais il y a 400 habitants dans un village.
Ouais.
Et en fait, quand je dis village, il y a peut-être trois routes tournées et après les maisons sont dispersées dans le bush. Donc ce qui s'appelle le bush, c'est une forêt primaire avec beaucoup de fougères. Enfin, c'est
Ouais.
vert tout le temps parce que c'est feuillage persistant. On entend les kiwis, on entend plein d'animaux. Il y a même des perroquets verts, d'autres types de perroquets à col rouge. Enfin, bref, une faune incroyable. Et c'est
Comment
en fait,
s'appelle
c'est
cette
une
île?
île et elle s'appelle Stewart Island. Elle est au sud de l'île du Sud et je pense qu'en superficie, c'est la quatrième île de Nouvelle-Zélande.
Ok.
Et donc là-bas, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'expérience que propose le capitaine, qui est d'amener des jeunes totalement déconnectés pendant une semaine à bord du bateau. Donc pas de téléphone, pas de musique. Un matin,
Ah.
il y a même une jeune qui se met du déo bien chimique, qui dit hors de question.
Ah ouais. Ici, on schlingue, on
On
est à la
ne
bonne
dénature plus
franquette.
l'environnement. Voilà. Si jamais il y avait une pince à linge qui tombait, vous plongez, vous me la ramassez. Enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, Edward, donc Ed, le capitaine, extraordinaire avec les enfants. Parce que donc le premier groupe, ils étaient 9, 15, 16 ans. Il leur donnait vraiment la parole. Il leur transmettait des messages, bien sûr, mais il leur donnait vraiment la parole sur ce qu'ils avaient ressenti pendant la journée en un mot, sur. Ouais, recueillir leurs impressions, leur faire écrire de la poésie ou dessiner, ou indiquer sur la carte où on était allé. On faisait donc du kayak, naviguer avec les voiles évidemment, je sais jamais comment le dire en français, du masque tuba, du
Ouais, du snorkeling. Ouais, du snorkeling,
snorkeling.
ça marche bien.
Ouais, tout à fait. Et donc voir les jeunes et leur teint s'éclaircir en même pas 2 jours, incroyable. Mais surtout voir cette confiance qu'ils ont pris en eux et à quel point ils avaient vraiment des discussions d'adulte à adulte avec nous, un espace qu'ils ne trouvent pas forcément en cours ou avec leurs parents. Et j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Et à côté, moi j'étais là-bas, Edward lui préparait le lunch ou je ne sais pas. Il m'amenait tout le temps du chocolat, des petites choses à grignoter et on papotait tous les deux. Et c'était en fait, je voyais en lui la conclusion de mon voyage intérieur. On était
Oh.
vraiment en phase sur ce qu'on avait compris de la vie et ce qu'il voulait transmettre aux enfants. Et c'est très intéressant parce que justement, il leur a posé la question de qui était leur meilleur ami. Et la réponse qu'il attendait, c'était mon corps, c'était moi-même. Et il m'a même demandé de parler de mon burn-out aux jeunes aussi, de les encourager à toujours avoir du playtime. Il les envoyait en time out, c'est-à-dire que quand on allait quelque part, on ne se dispersait, on ne se parlait pas, on ne se regardait pas, on était juste là. Et ça, je trouvais que c'était
Waouh!
extrêmement puissant.
Ah, pour des jeunes de
Et
14-15
surtout de
ans,
leur
ouais,
demander
c'est.
comment. Ouais.
Ça va être puissant.
Tout à fait. Et leur demander ensuite comment dans leur vie sédentaire ou en tout cas hors île, hein, ils allaient réussir à... Enfin, est-ce qu'ils avaient envie de le poursuivre et où ils le feraient et comment. Et c'était super intéressant à écouter. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette expérience.
Ça t'a appris quoi, cette expérience qui là était... pas forcément les autres n'étaient pas moins humaines, mais là, c'était un espèce d'incubateur de tu vois, d'une poésie intérieure qui était quand même assez jolie. Qu'est-ce que t'en as retiré par rapport à ces... allez, ça fait un an et demi que tu voyages. T'avais quoi comme leçon à partir de là? Enfin, de tout ce que t'as eu de tous ces voyages?
Oui. C'est très intéressant. À chaque fois que je racontais les détails à ma grand-mère, elle me disait, le mot, tu l'as prononcé, c'est la confiance. Et je pense qu'elle a absolument raison. En fait, comme je te disais, j'avais une colère à la fin de, enfin, au moment du burn-out, que personne m'ait prévenu ou que personne n'ait montré à quel point c'était des conditions insupportables au travail. J'étais pas la première, j'ai pas été la dernière. J'avais cette colère, en fait, cette défiance face à l'humanité. Et toutes mes expériences qui ont suivi, en fait, plus je me suis écoutée, plus l'humanité était belle. Il y avait vraiment une personne qui m'a dit un jour, trust the universe, fais confiance à l'univers. Et je sais que ça sonne petits oiseaux, tout ça, et c'est pareil pour lâcher prise ou pour être dans le présent, mais en fait je le vivais dans mon corps. C'était pas juste un concept, une bonne idée, tu sais, une citation sur les réseaux sociaux. C'était vraiment, ça habitait en moi, tu vois ce que je veux dire. Je l'avais vraiment compris de l'intérieur, et j'avais cet espace, ce centrage. J'ai envie de reprendre une image que m'avait donnée une amie qui était, en fait, Perrine, ton tronc, il est extrêmement frêle et t'as plein de branches qui sont vraiment beaucoup trop lourdes. Et il est temps que tu reprennes ton tronc. Et en fait, le tronc, c'est vraiment ça, c'est le centre. Et au lieu de virer, de se faire trimballer par le vent et d'être déstabilisé, etc., ben, j'étais à nouveau dans mon tronc. J'avais des petites branches. Et j'avais pas besoin d'avoir des énormes branches, mais en tout cas, j'avais un tronc suffisant pour pouvoir les faire grandir si je le voulais.
C'est joli, ça. Et où est-ce que, quand t'as, en fait, t'as élagué ton arbre pour te débarrasser du superflu, de ce qui te polluait, des branches pourries, des fruits qui étaient moisis dessus et que t'es revenu à l'essentiel, ça t'a emmené où, cette aventure? Est-ce que ça t'a commencé à te rapprocher un petit peu de... Et là, je pense que les gens qui écoutent ce podcast, quand on dit qu'on a été chercher aussi... Enfin, c'est le thème de l'amour dans le voyage, et c'est l'amour de sa vie. Avant d'aimer, je pense que si vous voyez, j'espère en tout cas, cette métaphore, c'est qu'il faut d'abord apprendre à se réaimer soi, en fait. Aimer son corps, aimer à l'intérieur, avant de pouvoir aussi accueillir et laisser à l'univers. Parce que jusque-là, l'univers, dans ton épopée, il fait bien son taf. Et attends, on va te reconstruire, on va faire le ménage, on va te remettre bien, on va te faire t'aimer, on t'apporte les bonnes choses au bon moment. Et... ça aurait été presque inutile de rencontrer la personne que tu as pu rencontrer, on y reviendra après, avant, puisque il y avait des étapes à faire. Et justement, ça a été quoi l'étape après la Nouvelle-Zélande?
Eh bien, super intéressant, parce que quand tu parles d'amour de toi, en fait, quand je t'ai parlé d'amour, évidemment, plutôt que qui j'ai rencontré, l'homme de ma vie, quelle que soit l'étiquette qu'on veut lui mettre, le pauvre, il a rien demandé. Évidemment, la personne que j'ai appris à aimer et que j'ai rencontrée en premier, c'est moi-même. Et j'ai ce moment, justement, chez des amis de l'apiculteur qui m'ont accueilli un week-end, où je me vois dans le miroir, sans maquillage, en culotte, et je me dis, mais en fait, t'es très bien comme ça. Et tu t'imagines que j'ai 31 ans à ce moment-là, et que jamais j'ai accepté ça, en fait.
Ah ouais.
J'ai toujours attendu que ça vienne de quelqu'un d'autre.
Ah ouais.
J'y ai jamais vraiment cru. J'ai jamais. Et je pense que c'est certainement très féminin parce qu'on nous colle tellement de stéréotypes et de complexes.
Complètement.
Et donc j'ai effectivement ce moment-là qui a été à jamais gravé. Donc ça, c'est novembre 2015. Et donc là, je te ramène sur cette petite île en 2016 au mois de mars. Ça fait pile un an que je suis partie. Edward me dit, prends le sac de couchage de la cabine. J'avais mon petit liner de toute façon. Et va marcher, parce que j'ai très envie que tu reviennes avec moi dans 2 semaines pour un deuxième voyage. Va explorer, si tu vas de tel côté, tu risques de voir des kiwis en liberté, et même en plein jour. Donc, je prends ce sac à dos, mon sac à dos qui ne fait que 35 litres, je mets trop de nourriture, je pense qu'il faisait 15 ou 20 kilos, et moi j'en fais que 50, 52. Et première cabane, je tombe sur 3 Américains, très sympathiques, Très bavard aussi, alors qu'en fait j'ai envie de solitude parce que mine de rien j'étais dans un espace confiné avec des jeunes, c'était génial, mais la raison pour moi c'était d'aller marcher pour être seule en
Bien
nature.
sûr.
Et donc dans le lot, il y en avait un qui était extrêmement intéressé par mes aventures, puisque les questions qu'il me pose c'est bah, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, nanana, ah t'es là depuis 6 mois, oh tu veux traverser l'Atlantique à la voile. Ah, t'as fait de l'apiculture, enfin bon, bref, en clair, et tu randonnes toute seule pendant 8 jours. Donc ça a vraiment été ce qui les a accrochés. Mais tu vois, effectivement, j'étais dans ma lune de miel avec moi-même. J'étais absolument pas intéressée à impressionner qui que ce soit, à rencontrer qui que ce soit.
Ouais.
J'étais vraiment dans cette phase où je suis un gâteau dans le four et je suis encore dans le four. Donc, on peut pas me rajouter de cerises sur le gâteau ou
Ouais,
de
je sais.
glaçage. Voilà, je suis seule avec moi-même et j'ai besoin de rien d'autre, quoi, que de me faire moi. Et donc voilà, donc je rencontre ces trois Américains et on va dans la même direction et on passe tous 2 nuits dans la même cabane parce qu'on a tous envie de voir donc ces fameux kiwis. Et le lendemain, il fait un petit peu brumeux, il pleut un petit peu, il crachine, tout ça. On est devant le feu, donc il y a eux trois, un couple et moi. Et je leur dis, mais moi, je vais pas passer la journée au coin du feu. Allez, on va se baigner et tout, c'est pas grave. Bon, l'eau, elle a 13 degrés quand même. Parce que c'est un peu. Ça commence à être l'hiver et on est au sud de l'île du Sud. Donc, le
Ça
prochain
pique.
arrêt, c'est l'Antarctique, quoi.
C'est ça.
Et donc, j'insiste. Et l'un d'eux, donc Nate, qui aujourd'hui est mon conjoint, je spoil un peu, a très envie de venir avec moi, mais les autres, tu vois, ils le poussent un peu vers moi. Et je suis, non, je veux pas me retrouver dans cette situation. Donc j'insiste, le deuxième vient et voilà, donc on court dans les vagues. Il me dit, est-ce que tu body surf? Bien sûr. Et puis je pars dans les vagues et à un moment je me retourne et je suis super loin. Et en fait il y a un courant undercurrent, il y a un courant,
Ouais,
je ne sais pas comment ça s'appelle,
c'est
en
comme une
dessous.
baïne, c'est comme ouais, c'est un courant qui t'emmène au large.
Exactement. Donc absolument. Alors parlons de baleine parce que comme j'ai passé une bonne partie de ma vie dans le sud-ouest, pour moi la baleine c'est pas trop grave, c'est pas la peine de paniquer, tu te laisses porter au lieu de t'épuiser et tu seras ramené
Sur le
dans
côté.
2-3 km, quoi.
Ouais.
Après tout est bouche, à part le sentier sur lequel on est, il y a rien. Donc j'aurais quand même été avec mon petit maillot de bain à essayer de remonter. Au niveau orientation, c'était facile puisqu'il suffisait que j'aille au nord, donc je garde la mer à ma gauche. Mais bon, voilà, je me dis, bah écoute, si jamais ça se passe, c'est pas grave. Donc je suis vraiment dans un sentiment de, oups, je crois que j'ai un petit peu forcé, mais
Attends, l'eau, elle est à 13 degrés. Quand tu
ouais.
forces et que tu te laisses. Donc, tu n'avais pas de combat, on est d'accord. Tu étais en mode sac à dos, tu étais juste avec. Donc, l'eau 13 degrés, déjà, au bout de 10 minutes, t'es pas super, t'es pas bien. Tu
Ouais.
commences à t'engourdir quand même.
C'est ça. Et en fait, il y a des vagues qui viennent de plusieurs directions. Donc, en général, ce que tu fais, c'est que tu nages en diagonale pour moins de faire. Mais en fait, les vagues, elles viennent de tous les côtés. Donc, c'est
Ouais.
extrêmement confus, comme diraient les Anglais. Donc, les vagues sont très confuses. Et donc, j'avance, j'essaye de me faire, de surfer la vague. Mais en fait, je me fais à nouveau reprendre en arrière ou bousculer par une autre. Et en fait, je suis super zen. Je me dis, bah écoute, ouais, on va la jouer baïne. Et puis, tu sais quoi, si jamais tu n'y arrives pas, bah, c'est pas grave. Parce que honnêtement, je préfère mourir là, maintenant, que peut-être 50 ans plus tard, en étant totalement passé à côté de ma vie. Alors, ça paraît peut-être un peu extrême, mais j'ai vraiment ce sentiment de bonheur infini. Malgré l'adversité, je suis bien, je suis
Ah ouais.
moi. Je suis ultra zen, quoi, en fait. Je suis vraiment bien, quoi. Et je pense juste à mes proches en me disant, bon, c'est quand même un peu pas correct vis-à-vis d'eux. Mais moi, en tout cas, je suis morte heureuse. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, enfin rigolo, dans tous mes carnets, en fait, de voyage, à chaque fois, j'ai écrit, si jamais il m'arrive quelque chose, retourner les carnets de mes parents, parce que je veux qu'ils puissent voir, en fait, à quel point je suis bien, quoi. Au cas où il m'arrive un truc, je veux en tout cas que ça se sache, que
Oh, c'est pas
ça
bête
valait le
ça.
coup. Ouais.
T'as fini là où tu devais être en fait. Mais
Ouais.
excuse-moi, on revient dans la flotte à 13 degrés. Si je dis pas de conneries, t'as embarqué deux gaillards avec toi. Donc est-ce qu'eux ils sont en galère avec toi dans l'eau à ce
Très
moment-là?
juste. Alors, ouais, je
Alors moi
vois
j'ai envie de crever,
Zach
mais eux
qui
ils vont
ouvre.
crever avec moi aussi. C'est pas grave, on est bien, on kiffe.
Ouais, non, en fait, je suis partie, tu vois, en mode super strong and powerful woman. Tu vois, je suis vraiment dans la nana qui a peur de rien et qui est partie chasser les vagues.
Ouais.
Donc, en fait, Zach est sur la berge en train de me faire des grands signes, reviens, reviens, reviens. Et Nate est à mi-chemin entre lui et moi. Et je suis dans ma pleine période de, enfin, je suis en plein dans mes réflexions ultra zen quand Nate se rapproche et il est là, en fait, je le vois même pas arriver. Et il me dit, ça va, tu t'éclates? Je dis, bah non, en fait, j'arrive pas à revenir. Il me dit, mais si, allez, viens, on y retourne ensemble. Et en fait, il m'a vraiment encouragé tout le long, mais lui, il gagnait 3 mètres. Moi, je me faisais renvoyer. Et il me disait, regarde, on se rapproche de Zach. Je dis, mais non, j'y croyais pas. Enfin, voilà. Et puis finalement, on y arrive, quoi. Mais je ne sentais ni mes jambes, ni mes bras. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Il n'y a pas de réseau téléphonique de toute façon. Donc, on savait que c'était mort pour appeler qui que ce soit. Donc on s'en sort. On s'en
Attends,
sort et
le
la
gars est beau
motivation,
gosse.
c'est lui qui me la
Ton
donne.
chéri, il est quand même beau gosse. Genre, au lieu de te faire paniquer, dire attention là, on va bientôt mourir, vas-y, sors tes tripes et tout. Le mec te dit, écoute, tu t'amuses bien? Allez, on y retourne, tout doux. Allez, tout doux. Allez,
You're
on pousse
having
sur les
fun.
jambes. On pousse sur les jambes. Non, c'est chiant quand même comme situation parce que, ok, tu sens plus rien du tout. Tu te sens, en plus, en général, tu te sens le corps qui est au ralenti, qui devient très lourd. Moi qui aime bien
Ouais.
baigner dans les eaux fraîches, ça peut arriver très très vite cette émotion-là. En fait, c'est même pas de l'émotion, c'est cette réaction physique. Et tu t'en sors. Donc, tu arrives sur la plage, tu tombes.
J'arrive sur la plage et Nate veut me prendre dans ses bras. Je suis là, non. Mais bon, c'est un hug à l'américaine, tu vois, il n'y a
Waouh,
pas de.
attends, Perrine, déjà le gars il t'a sauvé la vie, donc limite si un hug c'est le minimum, et tu pouvais lui faire au moins un bisou quoi. Ah, franchement, excuse mais.
Ouais, parce que je suis vexée de mon arrogance en fait.
Ah.
Autant je suis zen dans l'eau, mais une fois qu'on est de retour sur la plage, j'ai extrêmement honte de mon inconscience. Donc là, c'est l'ego qui reprend le dessus.
Yes.
Mais ça nous fait une excellente aventure, on est très contents et on en parle pendant des heures et on passe une très bonne soirée au coin du feu. Donc tout est bien qui finit bien.
Mais alors, comment ça se passe de rencontrer un randonneur américain dans une cabane au fin fond de la Nouvelle-Zélande et que pour une personne qui avait envie d'être tranquille, je la connais bien cette rengaine de non, c'est pas le moment, tu comprends, j'ai besoin de me retrouver, de savoir où je vais aller dans la vie. Hein, je pense que si tous les mecs m'écoutent, ils ont dû l'entendre une fois dans leur vie. Moi, plusieurs. Et du coup, comment lui, ce fameux Nate, il a réussi, il a réussi, lui, à finir cette magnifique aventure?
Ouais, en fait, son meilleur atout de charme, c'est son intelligence émotionnelle. En fait, c'est quelqu'un
Ouh.
qui sent très bien les gens, c'est quelqu'un qui est patient et c'est quelqu'un qui est, ouais, qui en fait a tout de suite compris. Enfin, il m'a écouté tout simplement. Il a entendu d'où je venais, où j'en étais. Ses copains étaient vraiment dans l'entremétisme, ce n'est pas une expression, mais voilà, ils étaient vraiment dans essayer de me pousser vers lui. Et donc
Wingman,
à
des
chaque fois
bons
que je
wingmen
faisais,
en fait.
ouais, non, tu vois, à chaque fois que je voulais, à chaque fois que j'allais ramasser du bois dehors, oh là là, mais t'es comme Nate, si jamais je balayais la cabane, oh là là, vous êtes tellement les mêmes, c'était très lourd.
Inception, genre ça te balance des
Exactement.
gros messages en permanence dans le subconscient.
Exactement, donc vraiment le truc qui me pousse, repoussait encore plus, mais ils ont une excellente idée, c'est qu'ils ont décidé de faire scission. Ils sont repartis avec le bateau taxi, en fait le couple avec lequel on était repartait avec un bateau taxi, donc ils sont partis, ils nous ont laissé 4 jours terminés ensemble.
Tous les
Et pour
deux.
revenir à Nate, il m'a quand même demandé si j'étais OK avec ça.
Ah, et il est fort, il est intelligent
Ouais,
émotionnellement, lui, hein.
exactement. Donc en fait, on a fait plus ample connaissance. On a marché dans la boue, on s'est pris de la pluie. Moi, je chantais I don't care, I love it. Bref, voilà, on était en phase, on s'amusait vraiment bien. Et
Mais
voilà,
attends,
et donc.
parce que là. Pour ne... Alors, je connais un tout petit peu la psychologie féminine, mais vraiment mal, sinon je serais le maître du monde. Comment toi, à ce moment-là, en fait, t'appréhendes je pense que tu commences à faire confiance à la vie, au signe de l'univers, parce que t'as capté qu'il t'emmenait à chaque fois les bonnes choses au bon moment. Mais si je dis pas de bêtises, t'es quand même dans ton tunnel de je vis pour moi, je me reconstruis, et venez pas trop m'embêter, en fait. Comment t'as vécu cette aventure? Comment tu l'as laissé rentrer dans ton self-love, dans ton univers à toi?
En fait, sur le moment, Mais effectivement, tu vois, en marchant, après, la marche, c'est toujours quelque chose de particulier, parce que la marche, tu n'es pas face à la personne quand tu lui parles, par exemple. Tu vois, on était vraiment des camarades de marche, et
Ouais.
j'étais pas, tu vois, c'est pas comme un speed dating où t'es face à la personne, droit dans les yeux.
T'es face
Je
à
sais pas
ses
comment
semelles.
expliquer. En fait, t'es vraiment toi-même quand tu marches, et surtout là, en fait. Donc, on a vraiment échangé des choses, oui, personnelles, tu vois. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment cette même fascination pour les levers de soleil, coucher de soleil, nature. Bon, ça paraît bateau, mais
C'est bateau.
on, voilà,
Mais ça
on a aussi,
marche.
tu vois, on a des amitiés avec des personnes plus âgées. On s'est posé la question de ce qu'on lisait, de ce qui nous intéressait, de nos rêves, de ce genre de choses. Et de toute façon, ils repartaient et moi, je continuais. Et sur l'avantage, c'est que j'avais pas de pression, si tu veux, je continuais mon truc quoi qu'il en soit. Donc on est resté en contact, et en fait, en restant en contact, on a livré plus de qui on était et de ce qu'on était. Et c'est à un moment dans mon carnet, parce que mon carnet, justement, joue un grand rôle aussi dans ce cheminement intérieur, je me rends compte qu'en fait, ce serait peut-être un bon candidat.
Ah ouais.
Que j'ai jamais fait le portrait robot, mais que en fait, il y a vraiment des choses qui résonnent profondément avec qui je suis
Mais à quel
aujourd'hui.
moment tu cliques en fait? Parce que t'es pas du tout dans ce délire-là, t'es dans le délire de ton aventure.
Ouais. Ben, je pense 2 semaines après,
Ah.
je continue moi-même à randonner, et là, je suis vraiment seule avec ma bougie à dessiner, à écrire, à lire dans le silence. Et en fait, je lui en parle quand je reviens en ville de ce que j'ai apprécié, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Et voilà, et je sens cette complicité en fait qui est vraiment sincère. Et donc ça se poursuit. Le voyage suivant à la voile avec d'autres jeunes. Ben, je suis aussi impatiente quand je reviens de lui en parler plus, de lui raconter combien j'apprécie être en compagnie de Edward, ce genre de choses. Donc en fait, ça se poursuit jusqu'à ce qu'au mois de juin, je lui envoie une carte postale avec les informations de mon billet d'avion pour la Californie.
Ah
Donc il me laisse
ouais.
venir à lui. Il me laisse venir à lui.
Ah pam. Attends, non, bah non, c'est toi qui as été à lui.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas, tu vois, enfin, autant les trois m'ont toujours dit, viens en Californie, on t'emmènera à randonner, tu verras, c'est génial, on peut faire des feux de bois, enfin, c'est super, il y a des lacs partout. On a quand même parlé de pourquoi pas se retrouver à mi-chemin, j'avais très envie d'aller en Tasmanie.
Ouais.
Et puis finalement, c'est moi qui prends la décision sans le consulter, et voilà. 30 août 2016, je vais en Californie pour voir où ça nous mène.
Et t'attends, mais alors, parce que ça fait combien de temps que t'es parti à ce moment-là?
Je suis partie en mars, donc ça fait donc septembre 2016, ça fait 1 an et demi.
Ça fait 1 an et demi. Et là, à ce moment-là, en fait, quand tu y vas, tu te dis quoi, en fait? Tu te dis, est-ce que c'est ma nouvelle vie? Est-ce que c'est peut-être un tremplin pour moi devenir moi-même? Ou est-ce que tu voyais, enfin, tu te dis quoi à ce moment-là? Est-ce que tu le vis comme une nouvelle expérience, comme tu en as pu en vivre d'autres et qui va te permettre de te reconstruire et c'est une partie de ton corps qui va être le cœur? Ou est-ce que tu le vois vraiment autrement?
Pas d'attente. En fait, ce que m'a appris la vie, c'est que j'étais pas la meilleure personne pour anticiper ou savoir ce qui allait se passer, ou tout simplement pour imaginer en fait, ce que m'a prouvé la vie, c'est que il y avait toujours mieux et plus que ce que j'imaginais. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens, dans leur vie
C'est
sédentaire,
fort
et je
ça.
m'inclus, hein,
Ouais.
pensent toujours que ce qu'on connaît pas, c'est pire. Alors qu'en fait, ce que te prouve le voyage, c'est que ce que tu ne connais pas a un potentiel énorme, parce qu'en fait, t'as aucune idée de tout ce qui est possible. Donc quand
Oh,
j'y
j'adore
vais, je
cette
suis.
phrase. C'est pas ce que tu ne connais pas, c'est mieux. C'est que ce que tu ne connais pas a un potentiel énorme. Ça, c'est puissant. Si tu l'as pas mis dans ton livre, faut le mettre. Hein.
Ouais.
Attention.
Non, ouais, à condition que tu ouvres la porte et que tu joues le jeu, mais il n'y a pas de limite. Parce qu'une chose amène une autre, qui amène une autre, qui amène une autre, qui t'amène complètement ailleurs de ce que tu pensais que tu allais trouver. Donc j'y vais en me disant, bah, j'y vais pour voir. Et alors c'est intéressant parce que tu me parlais de dates et d'événements. Je me rends aussi compte, une fois que j'ai pris mon billet, que j'ai failli, alors je sais pas si j'ai failli mourir, mais en tout cas j'étais vraiment en difficulté le 20 mars 2016. Ça correspond exactement 1 an après mon départ, qui était le 20 mars 2015. Où je me sens libre, où je me sens libérée, où je me sens prête. Et je me dis, mais tiens, est-ce que c'est pas un petit clin d'œil qui me dit, mais écoute, en fait, t'es prête, et peut-être que cette épreuve, c'était pour dire, hé, regarde, lui, peut-être qu'il vaut le coup, en fait. Donc j'y vais avec cette ouverture de peut-être qu'il y avait quelque chose à aller voir,
Bah
et
déjà,
donc
si
je ne
t'as sauvé
saurai
un
que
peu
si
la
j'y vais.
vie, si t'as sauvé la vie, c'est que c'est pas un mauvais bougre. Tu vois, tu peux laisser une petite chance, quoi. Tu pouvais lui laisser un date, franchement, au moins.
Oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que quand il est venu pour me dire « Allez, on revient ensemble », je dis « Mais non, mais va-t'en. » Enfin, va-t'en, pas va-t'en, mais tu prends un risque que t'as pas à prendre. Ça, c'est vrai que je m'étais mise dans cette situation moi-même. Je ne voulais pas que quelqu'un se mette en danger pour moi. Il y avait vraiment ça aussi. Mais en même temps, le pendant de ça, c'est pas parce qu'il m'a sauvé la vie qu'il a tous les droits, tu vois.
C'est sûr. Ah non, non, mais je disais, tu vois, un petit hug, une date ou un truc comme ça, ou un truc comme ça. Effectivement. Déjà, il va se calmer, déjà. Non, mais on va le reprendre autrement. Déjà, retourne sur la berge, là, m'emmerde pas, laisse-moi bien être tranquille. Et tu sais, ce qui est beau dans ton histoire, c'est qu'en tout cas, au moment où on fait ce podcast, et je souhaite que ça dure, tu es marié avec ce fameux Nate, tu es en Californie avec lui, et souvent ce qui se passe, c'est que les amours de voyage, ça dure qu'un temps. Pourquoi ? Parce que déjà, quand t'es plus dans l'effervescence du voyage, il y a une espèce de magie qu'on a perdue, tu vois, et que le ciment du couple de voyageurs qui s'est rencontré en voyage, il n'existe plus. Donc quand t'arrives, ça te glisse entre les doigts un peu, ça se fragmente. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que ça a continué en fait ? Qu'est-ce qui fait que, tu vois, dans le concept, évidemment, on me dit pas, c'est parce qu'en fait tous les matins il me fait des croissants, etc. Évidemment, ça vous regarde. Mais tu vois, dans le concept, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu donnes cet espace-là et que tu donnes cette chance-là en fait ?
Ouais, sujet très intéressant, l'amour de vacances. En fait, l'amour de vacances, ce qui se passe, c'est que on est dans une autre réalité. On vit certainement pleinement qui on est, mais en fait, on revient à ses habitudes et ses façons de penser sédentaires, en fait. Ça dure qu'un temps parce qu'on n'est plus disponible, parce qu'on ouvre plus, hein, je pense que c'est vraiment ça dans les vacances. Et la différence avec, je pense, Nate et moi, c'est qu'on était vraiment tous les deux pleinement présents, pleinement nous-mêmes, et que dans la vie après le voyage, on cherche à garder cet espace de disponibilité, d'ouverture, j'ai tout le temps envie de dire excitement, mais ça marche pas en français, d'être vraiment pleinement... Ouais, d'exaltation pour la vie, en fait. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que donc Californie, tout se passe super bien évidemment parce que pour moi c'est nouveau et tout. Mais quand lui il est venu en Europe, j'ai vraiment eu du mal à pas être contrôlante ou à pas juger ses attitudes très américaines. Enfin, j'ai vraiment eu ce passage d'adaptation de « Hey Perrine, lâche la Perrine d'avant, c'est pas parce que t'es de retour que tu dois redevenir celle que tu étais ». Donc ce qui marche, oui, c'est le fait qu'on est pleinement soi et qu'on conserve l'état du voyageur. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça que je recherche, ouais. Où que je sois, c'est de toujours être dans cette quête, conquête, découverte, exploration, et pas se, ouais, garder la vision, la vue à 180 degrés si je peux, plutôt que de descendre dans une vision tubulaire, stressée par le temps, par des contraintes. Voilà, quoi, garder tout ouvert, en fait.
La Perrine, qui malheureusement a subi un burn-out, elle était comment, si tu devais la décrire aujourd'hui, avec tes yeux d'aujourd'hui ?
Ouais, elle était efficace. Okay. Elle était efficace, elle allait toujours quelque part. Elle aimait la solitude, mais elle ne l'assumait pas.
Okay.
Je pense qu'il y avait vraiment ça de... Je sais pas, peut-être, tu vois, c'est mal vu de rien faire. Ouais, j'étais dans le faire, complètement, complètement dans le faire. Ouais. Et j'avais cette impression aussi, et je pensais pour ça qu'il y avait cette hyperactivité, que j'aurais pas assez d'une vie pour tout vivre. Mais ouais. Au lieu de vivre maintenant, je cherchais à résister le présent, en fait.
Oh. Et ça, c'est beau, ça. Et justement, si toi, aujourd'hui, tu devais décrire la Perrine qui a vécu tout ça, qui a su se transcender, qui a su se reconstruire, comment tu la décrirais ?
Le sentiment des possibles, tu vois, capable. En fait, et j'ai fait de la voile aussi, je pense, pour ça. Ce que j'aime beaucoup dans la voile, mais ça vaut pour n'importe quelle expérience en nature, c'est que les conditions climatiques te viennent dessus et tu peux rien faire que t'adapter. Et le burn-out, ça a été ça aussi. C'est qu'en fait, à partir du moment où quelque chose arrive dans ta vie, tu peux le résister, tu peux y résister autant que tu veux, tu peux le combattre, tu peux perdre beaucoup d'énergie, gaspiller beaucoup de paroles aussi sur des situations que tu peux pas changer. Mais voilà, j'ai appris à accepter et même à aimer ce qui est négatif parce que je sais que derrière, il y a toujours quelque chose à gagner. Donc en fait, ouais, beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé, beaucoup plus philosophe et beaucoup plus capable de balayer ce qui n'est pas nécessaire en fait, balayer ce qui sert à rien. Et j'arrivais pas à faire la distinction forcément avant. Aller au bout de mes rêves aussi, donc tu vois, traverser l'Atlantique, on l'a fait ensemble, Nate m'a accompagné. Ensuite, on a fait un rallye à vélo. Cette année, c'est PCT, le Pacific Crest Trail. En fait, il y a plus de limites. Les limites, c'est moi qui me les,
T'as écrit des livres aussi.
Oui, ça se fait en cours. Ouais, tout à
C'est
fait.
pas encore, il n'est pas encore publié?
Non, du coup, là, comme le PCT arrive, je l'ai mis de côté, donc ce sera pour la fin de l'année. Mais voilà, c'est vrai que écrire aussi, ça ouvre des portes énormes. Et là, j'écris sur ce que j'ai vécu, mais ça me donne vraiment envie d'explorer plus l'écriture et ce qu'on peut transmettre à d'autres personnes.
C'est génial et c'est bête, mais question que je pose pas souvent, alors pourtant ça me démange à chaque fois et j'oublie de la poser sur le moment, mais c'est quoi ton rêve aujourd'hui?
J'ai pas un rêve. Je pense que j'ai réalisé mes rêves. Le seul rêve, c'est de rester dans cet espace, en fait. Je pense que c'est vraiment cultiver cet espace de possibilités infinies. Et quand un rêve, certainement, vient me visiter, à ce moment-là, être capable d'y aller et de pas trouver toutes les mauvaises raisons du monde pour le résister.
Écoute, j'aime bien terminer par deux petites questions traditionnelles, ce podcast. La première, c'est si tu devais résumer ton voyage, enfin, pas ton voyage, mais tu sais, toute cette aventure, avant d'ailleurs de rencontrer Nett et au moment aussi où il est rentré dans ta vie, en une phrase, une citation, une punchline, ce serait laquelle?
Trouver l'espace où tout est possible. Et l'espace, il est en nous.
Et si je te file les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et revivre un seul moment de toute cette période-là, tu voudrais revivre quel moment?
Ah, elle est difficile ta question et à chaque fois que j'entends quelqu'un y répondre dans ton podcast, je me dis ah mais oui moi aussi. Tu vois, je pensais à Anaïs à la voile, tu vois, qui dit lever lune, coucher de lune sur l'océan. Mais ça a déjà été dit, donc je vais pas le dire.
Exact.
Une chose simple, tu vois, comme randonnée seule en Nouvelle-Zélande, donc j'ai randonné après 6 semaines. Après ça, dans le Fjordland, qui est, ils appellent ça des fjords, mais c'est pas vraiment des fjords, mais en tout cas il pleut beaucoup. Mais il y a des cabanes. Et j'accélère un peu. C'était une rando de, je sais plus, 150 km, je sais plus. Bref, j'accélère pour aller passer plus de temps avec les phoques et les. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des phoques? Il y avait autre chose
Les
là-haut.
manchots.
Oui, des petits manchots. Il y avait des phoques, mais il y avait encore un autre truc que j'oublie. Bon, c'est pas grave. Et du coup, j'accélère sur le retour, mais il a beaucoup plu et le sentier est devenu un peu une cascade. Et j'avance un peu trop vite, je glisse. Enfin voilà, je me cogne un petit peu. Et j'arrive enfin à la cabane et la pluie s'arrête. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est avoir une bougie qui est un peu comme un cierge en fait. Et j'utilise pas ma lampe frontale parce que je trouve que c'est complètement gâcher le plaisir. Et j'aime bien, il y a toujours des livres. Je trouve un livre super intéressant d'une Australienne d'origine française qui était alpiniste dans les années 1800 quelque chose. Super intéressant. Mais bon, la nuit est magnifique, les étoiles sont là. Et je me dis, tiens, je vais descendre. Juste au bord du lac, parce qu'en pleine journée, tu as quand même les sandflies qui viennent te grignoter un peu. Et donc, je descends, c'est une plage de galets, il y a des petites vagues, il y a la lune, il y a les étoiles, donc c'est superbe et tout. Et en remontant, en fait, je vois vaciller la flamme de ma bougie dans la cabane. Et ça, je trouve que c'est juste voilà, simple et magnifique. Et ouais, des choses simples comme ça, de profonde solitude, mais pas une solitude subie, mais vraiment la solitude, la vraie. Qui est nourrissante en fait. Donc une bonne lecture, pas d'électricité, pas de connexion, mais une connexion infinie à la nature. Je pense que ce serait, ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Et j'étais avec toi, je la voyais danser, la petite flamme de la bougie.
Ah ouais, non, c'est splendide, ouais.
Perrine, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce partage très beau et très personnel, pour toute cette aventure et surtout pour ce témoignage très inspirant, je pense, qui en inspirera plus d'un et plus d'une, parce que je pense qu'on est, il y en a plein qui en ce moment, si c'est pas dans un burn-out, c'est potentiellement dans un mal-être qui est créé, qui est subi. Peu importe, dans une période où je pense qu'il faut saisir aujourd'hui pour se reconnecter à soi, pour prendre des grandes décisions, pour prendre des risques, parce que de toute façon, le risque, on le prend en pleine face, alors autant le choisir. Je te remercie beaucoup. Pour ceux qui veulent suivre Perrine, évidemment, il y a le lien de tous ces réseaux où on peut la retrouver qui sont en description du podcast. Et moi, je te souhaite une magnifique aventure, j'espère, sur le PCT, hein,
que oui,
vous allez arriver
ça.
À faire. Donc, il y a un trail, d'ailleurs, qui a Jules à la Bougeotte, qui est déjà venu sur ce podcast, qui nous l'a raconté, cette aventure. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast, qui est aussi un podcast magnifique. Et moi, je t'envoie plein de belles ondes pour que l'amour continue à couler à flot en Californie.
Merci infiniment, Alex. Merci
Ciao.
À tous.
Merci, Perrine.
Salut.
Bye.